Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici de nouveau ensemble en cette période de confinement pour écouter tranquillement la suite des aventures de Gargantua par François Rabelais. Comment le moine fut fêté par Gargantua et des beaux propos qu'il tint en soupant. Quand Gargantua fut attablé et qu'ils eurent baffré les premiers morceaux qui leur tombaient sous la dent, Grand Gousier commença à raconter l'origine et la cause de la guerre déclenchée entre Picrocole et lui-même. Il en arriva au moment de narrer comment frère Jean des Entaumeurs avait triomphé lors de la défense du clos de l'abbaye. Il fit son éloge et plaça sa prouesse au-dessus de celle de Camille, Scipion, Pompée, César et Thémistocle. Gargantua demanda donc que sur l'heure on l'envoya quérir pour délibérer avec lui de ce qu'il convenait de faire. Son maître d'hôtel, selon leur volonté, l'alla quérir et le ramena joyeusement avec son bâton de croix sur la mule de Grand Gousier. Quand il fut arrivé, ce furent 1000 gentillesses, 1000 accolades, 1000 salutations. « Eh, frère Jean, mon ami, frère Jean, mon grand cousin, frère Jean, de par le diable, l'accolade, mon ami. À moi l'embrassade. Viens là, mon couillon, que je t'éreinte à force de te serrer dans mes bras. Eh, frère Jean de jubilé, jamais nul homme ne fut si aimable ni gracieux. Là, là, dit Gargantua, sur une escabelle, ici au bout, à côté de moi. Je veux bien, dit le moine, puisque tel est votre bon plaisir. Page, de l'eau, donne, mon enfant, donne, et elle me rafraîchira le foie, verse par ici que je me gargarise. Déposez la chape, dit Gymnaste, ôtons ce froc. Oh, pardieu, dit le moine, mon gentilhomme, il y a dans le statut de l'ordre un chapitre auquel cette proposition ne conviendrait guère. Merde, dit Gymnaste, merde pour votre chapitre. Ce froc vous brise les deux épaules, mettez-le bas. Mon ami, dit le moine, laissez-le-moi, car, par Dieu, je n'en bois que mieux. Il me rend le corps tout joyeux. Si je le laisse, messieurs les pages en feront des jarretières. On m'a fait le coup une fois à Coulaines. En plus, je n'aurai aucun appétit. Mais si je m'assieds à table en cet habit, je boirai, par Dieu, à toi et à ton cheval et de bon cœur. Dieu garde de mal la compagnie. J'avais soupé, mais je n'en mangerai pas moins, car j'ai l'estomac pavé et creux comme la botte de Saint-Benoît, toujours ouverte comme la sacoche d'un avocat. De tout poisson autre que tranche, prenez l'aile de la perdrix ou la cuisse d'une nonain. N'est-ce pas mourir en joyeux drille que de mourir la quille raide ? Notre prieur aime beaucoup le blanc de chapon. En cela, dit Gymnaste, il ne ressemble point au renard, car il ne mange jamais le blanc des chapons des poules et des poulets qu'il prenne. « Pourquoi ? » dit le moine. « Parce que, répondit Gymnaste, ils n'ont pas de cuisinier pour les faire cuire, et s'ils ne sont cuits à point, ils restent rouges et non pas blancs. La rougeur des viandes indique qu'elles ne sont pas assez cuites, sauf pour les homards et les écrevisses, que l'on cardinalise à la cuisson. » Faites Dieu baillard, dit le moine, l'infirmier de notre abbaye n'a donc pas la tête bien cuite, il a les yeux rouges comme une jatte de vergne. Cette cuisse de levrault est bonne pour les goutteux. À propos de bottes, pourquoi les cuisses d'une demoiselle sont-elles toujours fraîches ? Ce problème, dit Gargantua, n'est ni dans Aristote, ni dans Alexandre d'Aphrodise, ni dans Plutarque. C'est, dit le moine, pour trois raisons qui font qu'un lieu est naturellement rafraîchi. Primo, parce que l'eau ruisselle tout le long. Secondo, parce que c'est un lieu ombragé, obscur et ténébreux où le soleil ne luit jamais. Et troisièmement, parce qu'il est continuellement éventé par les vents du trou de bise, de la chemise et en complément de la braguette. Et allez, page, à la boisson, crac, 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 que Dieu est bon de nous donner ce bon piot. Je confesse Dieu. Si j'avais vécu au temps de Jésus-Christ, j'aurais bien empêché les Juifs de le prendre au jardin des Oliviers. Le diable m'abandonne si je n'eusse pas coupé les jarrets à messieurs les apôtres qui s'enfuirent si lâchement après avoir bien soupé et laissèrent le bon maître en difficulté. Je crains plus que le poison un homme qui s'enfuit quand il faut jouer du couteau. Ah, mais que ne suis-je roi de France pour 80 ou 100 ans? Par Dieu, j'accommoderai en chien coupé les fuyards de Pavie. La fièvre carte les emporte. Pourquoi ne mourrait-il pas sur place plutôt que d'abandonner leur bon prince en ce péril? N'est-il pas meilleur et plus honorable de mourir en combattant que de vivre en s'enfuyant bassement? Nous ne mangerons guère d'oisons cette année. Ah, mon ami, passe-moi de ce cochon, diantre. Il n'y a plus de mou. La souche de Jessé a monté, ma bouche a cessé de pinter. Ce vin n'est pas des plus mauvais. Quel vin buviez-vous à Paris? Je me donne au diable s'il fut un temps. Je n'y ai pas tenu plus de 6 mois table ouverte à tout venant. Connaissez-vous frère Claude des Hauts-Barrois? Oh, le brave compagnon que c'est! Mais quelle mouche l'a piqué! Il ne fait qu'étudier depuis je ne sais combien de temps. Pour ma part, je n'étudie pas. Dans notre abbaye, nous n'étudions jamais, de peur des oreillons. Feu, notre abbé, disait que c'est une chose monstrueuse que de voir un moine savant. Pardieu, monsieur mon ami, les plus grands clercs ne sont pas les savants les meilleurs. Vous n'avez jamais vu autant de lièvres que cette année. Je n'ai pu récupérer ni autour, ni Tiercelet, nulle part. Monsieur de la Bellonnière m'avait promis un lanier, mais il m'a écrit il y a peu qu'il était devenu pontois. En ces temps, les perdrix vont nous manger les oreilles. Je ne prends pas de plaisir à l'affût, car j'y attrape du mal. Si je ne cours pas, si je ne m'affaire pas, je ne suis pas à mon aise. Il est vrai qu'en sautant les haies et les buissons, j'y laisse du poil de mon froc. J'ai récupéré un joli lévrier. Je me donne au diable si un lièvre lui échappe. Un laquais le menait à monsieur de Maulévrier, je l'ai détroussé. Ai-je mal fait? Nenni, frère Jean, dit Gymnaste. Nenni, de par tous les diables, Nenni. Ah, alors, dit le moine, à la santé de ces diables, pendant qu'il y en a encore, vertu Dieu, qu'en aurait-il fait de ce boiteux? Cordieu, il a plus de plaisir quand on lui fait cadeau d'une bonne paire de bœufs. Comment? Dit Ponocrates. Vous jurez, frère Jean? Ce n'est, dit le moine, que pour orner mon langage. Ce sont couleurs de rhétorique cicéronienne. Pourquoi les moines se sont retirés du monde et pourquoi les uns ont le nez plus grand que les autres? Foi de chrétien, dit Eudémon, je deviens tout troublé en considérant la valeur de ce moine, car il réjouit le cœur de tous ceux qui sont ici. Et comment se fait-il donc qu'on écarte les moines de toutes les bonnes compagnies en les traitant de troubles faits, comme les abeilles chassent les frelons du voisinage de leur ruche? Elles éloignent de leur ruche, dit Virgile, la troupe paresseuse des frelons. À cela, Gargantua répondit : il n'y a rien de plus vrai. Le froc et la cagoule attirent sur eux l'opprobre, les injures et les malédictions de tout le monde. De même que le vent qu'on appelle le cécias attire les nus. La raison indiscutable en est qu'ils mangent la merde du monde, c'est-à-dire les péchés, et qu'en tant que mange-merde, on les rejette dans leurs latrines, à savoir leurs couvents et leurs abbayes, écartés de la vie publique comme les latrines sont écartées de la maison. Et si vous comprenez pourquoi, dans un cercle de famille, un singe est toujours ridiculisé et tracassé, vous comprendrez pourquoi les moines sont fuis de tout vieux et jeune. Le singe ne garde pas la maison comme un chien, il ne tire pas l'arrière comme le bœuf, il ne donne ni laine comme la brebis, il ne porte pas de fardeau comme le cheval, il ne fait que tout conchier et saccager. C'est pourquoi il reçoit de tous moquerie et bastonnade. De même, un moine, j'entends un de ces moines oisifs, ne laboure pas comme le paysan, ne garde pas le pays comme l'homme de guerre, ne guérit pas le malade comme le médecin, ne prêche pas ni n'instruit les gens comme le bon docteur évangélique et le pédagogue, ne transporte pas comme le marchand les biens de consommation et les choses nécessaires à la société. C'est pourquoi ils sont hués et abhorrés par tout le monde.
Sans doute, dit Grand Gousier, mais il prie Dieu pour nous.
Rien moins, dit Gargantua. Il est vrai qu'ils assomment tout leur voisinage à force de brinque-baller leurs cloches.
Pardi, messe, matine ou vêpres bien sonnées sont à moitié dites, répondit le moine.
Ils marmonnent quantité d'anciennes et de psaumes qu'ils ne comprennent nullement. Ils disent « Force patenôtre entrelardée de long Ave Maria » sans y penser, sans comprendre, et je n'appelle pas cela prier, mais se moquer de Dieu. Mais que Dieu les aide s'ils prient pour nous autrement que par peur de perdre leur miche et leur soupe grasse. Tous les vrais chrétiens, en tout lieu, en tout temps et quelle que soit leur situation, prient Dieu. L'Esprit intercède et prie pour eux, et Dieu les prend en grâce. Mais maintenant, voici quel est notre bon frère Jean. Voici pourquoi chacun recherche sa compagnie. Il n'est point bigot. Ce n'est point une face de carême. Il est franc, joyeux, généreux, bon compagnon. Il travaille, il peine à la tâche, il défend les opprimés, il console les affligés. Il recourt ceux qui souffrent. Il garde les clos de l'abbaye.
Je fais, dit le moine, bien davantage, car au cœur, en expédiant nos matines et services anniversaires, je fabrique en même temps des cordes d'arbalète, je polis des carreaux et des flèches, je confectionne des filets et des bourses à prendre les lapins. Jamais je ne suis oisif.
Mais par ici, à boire! À boire par ici, apporte le dessert, ce sont les châtaigniers du bois des Trocs. Avec un bon vin nouveau, nous voilà juges de paix. Chez vous, le mout nouveau n'est pas encore arrivé, pardieu. Je bois à tout abreuvoir comme un cheval de juge prometteur.
Gymnase lui dit, « Frère Jean, ôtez cette roupie qui vous pend au nez. »
Nous sommes les moines de Saint-Bernardin.
Nous sommes les moines de Saint-Bernardin.
Nous nous couchons tard et nous levons matin.
Nous nous couchons tard et nous levons matin.
Le prieur nous engueule, mais nous nous en foutons. Voilà qui est bon, qui est bon, qui est bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie. Et voilà la vie que tous les moines font.
Et voilà la vie.
Notre dîner de bons petits oiseaux.
Pour notre dîner de bons petits oiseaux.
Que l'on nomme Caille, Bécassou, Perdreau.
Que l'on nomme Caille, Bécassou, Perdreau.
De l'andouillette de Vire, du vin blanc de Mâcon. Voilà qui est bon, qui est bon, qui est bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie. Et voilà la vie que tous les moines font.
Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie, ah ah. Et voilà la vie que tous les moines font.
Nous couchons la nuit dans des lits aux draps blancs.
Nous couchons la nuit dans des lits aux draps blancs.
Avec des nonnettes de 15 à 20 ans.
Avec des nonnettes de 15 à 20 ans.
Bien dodu tes fesses et ferme les tétons. Voilà qui est bon, qui est bon, qui est bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie. Et voilà la vie que tous les moines font.
Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie. Et voilà la vie que tous les moines font.
La nuit tous ensemble nous nous enculons.
La nuit tous ensemble nous nous enculons.
Jusqu'au petit jour, nous buvons et chantons.
Jusqu'au petit jour, nous buvons et chantons.
Après, sous la table, nous roulons et dormons. Voilà qui est bon, qui est bon, qui est bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie. Et voilà la vie que tous les moines font.
Et voilà la vie.
Si c'est là la vie que tous les moines font.
Si c'est là la vie que tous les moines font.
Je me ferai moine avec ma Jeanneton.
Je me ferai moine avec ma Jeanneton.
Le soir dans ma chambrette, je lui chatouillerai le bouton. Voilà qui est bon, qui est bon, qui est bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie. Et voilà la vie que tous les moines font.
Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie, ah ah. Et voilà la vie que tous les moines font.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Et nous revenons à Gargantua après cette petite pause musicale. Ah ah, dit le moine, serais-je en danger de me noyer vu que j'ai de l'eau jusqu'au nez? Non, non, pourquoi? Parce qu'elle en sort bien, mais n'y entre pas. Il est bien immunisé au jus de la treille. Oh, mon ami, quelqu'un qui aurait des bottes d'hiver d'un tel cuir pourrait prêcher hardiment les huîtres. Elles ne prendraient jamais l'eau. Pourquoi, dit Gargantua, frère Jean a-t-il un si beau nez? Parce que Dieu l'a voulu ainsi, dit Grand Gousier. Il nous donne forme et fonction selon son divin arbitre, comme fait un potier qui modèle ses vases. Parce que, dit Ponocrates, il fut un des premiers à la foire d'aînés. Il a pris un des plus beaux et des plus grands. « Ha ! Hula ! » dit le moine. Selon la vraie philosophie monastique, c'est parce que ma nourrice avait des tétons mollets. En la tétant, mon nez s'y enfonçait comme dans du beurre, et là, levait et croissait comme la pâte dans la mets. Les durs tétons de nourrice font des enfants Camus. Ha, mais gai, gai! À la forme du nez, on connaît celle du « vertois je lève ». Je ne mange jamais de conserve. Page à la boisson et des rôtis aussi. Comment le moine fit dormir Gargantua de ses heures et de son bréviaire. Le souper achevé, ils délibérèrent sur la situation pressante et conclurent qu'ils sortiraient en patrouille vers minuit pour se renseigner sur le guet et la vigilance des ennemis. En attendant, ils se reposeraient un peu pour être plus frais. Mais Gargantua ne pouvait dormir de quelque posture qu'il se mit. Alors le moine lui dit « Je ne dors jamais bien à mon aise, sauf quand je suis au sermon ou quand je prie Dieu. Commençons, vous et moi, je vous prie, les 7 psaumes pour voir si vous ne serez pas bientôt endormi. » L'idée convint tout à fait à Gargantua. Et ayant commencé le premier psaume, ils s'endormirent tous les deux en arrivant à « Bienheureux ceux qui ». Mais le moine ne manqua pas de s'éveiller avant minuit tant il était habitué à l'heure des matines au cloître. Étant éveillé, il éveilla tous les autres en chantant à pleine voix la chanson « Ô Régno, réveille-toi, veille ! Ô Régno, réveille-toi !» Quand ils furent tous réveillés, il dit « Messieurs, on dit que les matines commencent par des toux et le souper par de la boisson. Faisons le contraire. Commençons maintenant nos matines par boire et le soir, au début du souper, nous tousserons à qui mieux mieux ?» Ce qui fit dire à Gargantua « Boire aussitôt après avoir dormi, ce n'est pas conforme aux lois de la diététique. Il faut d'abord se vider l'estomac des déchets et des excréments. Bah, »« C'est bien diététisé, dit le moine, que 100 diables me sautent au corps s'il n'y a pas plus de vieux ivrognes qu'il n'y a de vieux médecins. J'ai conclu avec mon appétit un pacte tel qu'il se couche toujours avec moi. » Ce à quoi je donne bon ordre pendant la journée. Et qu'il se lève également avec moi. Rendez vos boulettes vomitives tant que vous voudrez. Moi, je m'en vais à mon tiroir apéritif. De quel tiroir voulez-vous parler ?
Dit Gargantua. Bah de mon bréviaire, dit le moine. Car de même que les fauconniers, avant que de donner à manger à leurs oiseaux, leur font tirer quelques pattes de poule pour leur purger le cerveau des humeurs et les mettre en appétit, de la même façon, en prenant le matin ce joyeux petit bréviaire, je me récure la poitrine et me voilà prêt à boire.
À quel usage, dit Gargantua, récitez-vous de belles heures ?
À l'usage de Fécamp, dit le moine. Trois psaumes et trois leçons, ou rien du tout si on veut. Jamais je ne m'astreins aux heures. Les heures sont faites pour l'homme, et non l'homme pour les heures.
C'est pourquoi je règle les miennes comme des étrivières, je les raccourcis ou les allonge comme bon me semble.
Courte tirade emplit le ciel, longue rasade vide l'écuelle.
Où est écrit cela ?
Par ma foi, dit Ponocrates, je ne sais pas, mon petit couillot, mais tu vaux ton pesant d'or.
En cela, dit le moine, je vous ressemble, mais venez, que nous buvions. On prépara des grillades en quantité et de belles tartines matutinales, et le moine but son content. Certains lui tinrent compagnie, d'autres s'en dispensèrent. Ensuite, chacun commença à s'armer et à s'équiper, et ils armèrent le moine contre sa volonté, car il ne voulait pas d'autres armes que son froc sur sa poitrine et le bâton de la croix à son poing. Toutefois, il fut, selon leurs vœux, armé de pied en cap, monté sur un bon coursier du royaume de Naples, avec un gros braquemar au côté, en même temps que Gargantua, Ponocrates, Gymnaste, Eudémon et 25 parmi les plus vaillants de la maison de Grand Gousier, tous solidement armés, la lance au poing, montée comme Saint-Georges et portant chacun un arquebusier en croupe. Comment le moine encouragea ses compagnons et comment il pendit à un arbre.
À présent, les nobles champions s'en vont à la rencontre de l'aventure. Bien décidés à discerner les cas où il leur faudra poursuivre un engagement et ceux où ils devront se tenir sur la défensive quand viendra le jour de la grande et horrible bataille. Et le moine leur donne du courage en disant « Enfants, n'ayez ni peur ni inquiétude. Je vous conduirai en sûreté, que Dieu et Saint Benoît soient avec nous. Si ma force égalait mon cœur morbleu, je vous les plumerais comme un canard. Je ne crains rien que l'artillerie. Toutefois, je connais certaines oraisons que m'a confiées le sous-sacristain de notre abbaye, oraisons qui protègent la personne de toutes les bouches à feu.
Mais elle ne me servira à rien, car je n'y ai ajouté point de foi.
Cependant, mon bâton de croix fera diablement merveille. Par Dieu, celui d'entre vous qui fera la poule mouillée, je me donne au diable si je ne le fais pas moine à ma place et ne le harnache pas de mon froc. Il porte remède à la couardise des gens.
N'avez-vous pas entendu parler du lévrier de monsieur de Meurle qu'il ne valait rien pour chasser au champ ?
Il lui mit un froc au cou. Par le cordieu, ni lièvre ni renard, qui l'avait aucune, lui échappait, et qui plus est, il couvrit toutes les chiennes du pays, lui qui auparavant était éreinté, chapitre des impuissants et maléfiques cités.
Le moine, disant ces mots avec colère, passa sous un noyer du côté de la Saulaie et embrocha la visière de son aume au moignon d'une grosse branche du noyer.
Malgré tout,
il donna brutalement des éperons à son cheval qui se montrait chatouilleux quand on le piquait de sorte qu'il bondit en avant. Le moine, voulant décrocher sa visière, lâche la bride et se pend aux branches par la main pendant que le cheval se dérobe sous lui.
Ainsi, le moine resta suspendu au noyer, criant à l'aide et au meurtre et protestant aussi qu'on l'avait trahi.
Eudémon l'aperçut le premier et dit en appelant Gargantua
« Sire, venez et voyez, Absalom pendu !»
Gargantua s'étant approché, examina l'attitude du moine et la façon dont il était suspendu et il dit à Eudémon
« Là vous êtes mal tombé en le comparant à Absalom, car Absalom se pendit par les cheveux, tandis que le moine, ras de poil, s'est pendu par les oreilles. » Aidez-moi, dit le moine, de par le diable, c'est bien le moment de jaser. Vous ressemblez aux prédicateurs décréatalistes qui disent que quiconque verra son prochain en danger de mort doit, sous peine d'excommunication trifide, l'exhorter à se confesser et à se mettre en état de grâce plutôt que de l'aider. Aussi, quand je les verrai tomber dans la rivière et prêts à se noyer, au lieu d'aller les chercher et de leur tendre la main, je leur ferai un beau grand sermon sur leur mépris du monde et la fuite du siècle. Quand ils seront raides de mort, j'irai les repêcher.
Ne bouge pas, mon mignon, dit Gymnaste, je vais aller te chercher, car tu es un gentil petit moine.
Des pendus, j'en ai vu plus de 500. Mais je n'en ai jamais vu qui eusse meilleure allure en pendillant. Si j'avais eu aussi bonne grâce, je voudrais pendre ainsi toute ma vie.
Aurez-vous, dit le moine, bientôt fini de prêcher ?
Aidez-moi au nom de Dieu, puisque vous ne voulez pas le faire au nom de l'autre. Sur l'habit que je porte, vous vous en repentirez en temps et lieu déterminé.
Alors Gymnaste descendit de son cheval. Et montant au noyer, souleva le moine d'une main par les goussets et de l'autre dégagea sa visière de la branche qui l'accrochait. Ainsi, il le laissa tomber à terre et sauta auprès de lui.
Le moine, redescendu, se défit de toute son armure qu'il jeta pièce après pièce au milieu du champ et reprenant son bâton de croix, il remonta sur son cheval que Démon avait retenu dans sa fuite. Ainsi, ils s'en vont joyeusement en suivant le chemin de la Soleil.
Comment Gargantua rencontra la patrouille de Picrocole et comment le moine tua le capitaine Tiravant, puis fut fait prisonnier par les ennemis. Au rapport de ceux qui s'étaient sauvés en déroute quand Tripet avait été étripé, Picrocole fut pris d'une grande colère en apprenant que les diables s'étaient rués sur ses gens. Il tint conseil toute la nuit. Astivo et Touquedillon conclurent que sa puissance était telle qu'il pourrait défaire tous les diables d'enfer s'il venait s'y frotter. Éventualité à laquelle Picrocole ne croyait pas du tout, et c'est pourquoi il ne s'en défiait pas. Aussi, pour reconnaître le terrain, envoya-t-il en patrouille sous les ordres du comte Tiravant 1600 chevaliers, tous montés sur des chevaux légers, tous bien aspergés d'eau bénite, chacun portant pour insigne une étole en écharpe, à tout hasard, afin que s'ils rencontraient les diables, ils se fissent disparaître et s'évanouir grâce au pouvoir de l'eau lustrale et des étoiles. Ils galopèrent donc jusqu'aux alentours de la Vauguillon et de la Maladrerie, mais pas une fois ne trouvèrent à qui parler. Ils repassèrent alors sur les hauteurs et près du Coudray, dans la cabane servant d'abri aux bergers, et ils trouvèrent les 5 pèlerins. Ils les emmenèrent ligotés et bâillonnés, comme s'ils eussent été des espions en dépit des exclamations, des supplications et des prières qu'ils purent imaginer. Redescendus vers Seuilly, ils furent entendus par Gargantua qui dit à ses gens « Compagnons, c'est la bataille !» Et ils nous sont au moins 10 fois supérieurs en nombre, allons-nous les cogner ?
Voilà, nous avons terminé pour ce soir la suite des aventures de Gargantua que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.